de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment ça va? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et les chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Macron va remanier le cabinet. Le premier ministre français démissionne. L'Australie prévoit de suivre le Royaume-Uni accordant des visas aux citoyens de Hong Kong. Le dirigeant nord-coréen appelle à une vigilance maximale contre le virus. L'Indonésie soulève la question de la protection des ABK dans l'océan Indien. Le ministère de l'Industrie ouvre les inscriptions au programme d'aide à la restructuration des machines jusqu'au 11 octobre. Prambanan et Ratu Boko ont appliqué le protocole lors du test de l'ouverture des destinations. Des tarifs compétitifs pour des raisons de relocaliser des entreprises américaines en Indonésie. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Vendredi, le premier ministre français Édouard Philippe a démissionné avant le remaniement ministériel du président Emmanuel Macron. Le remaniement a été conclu par Macron pour accroître la confiance les Verts et regagner la sympathie des électeurs déçus avant les élections. L'Élysée a déclaré dans un communiqué que Philippe traitera des affaires gouvernementales jusqu'à la formation d'un nouveau cabinet. Les spéculations concernant le poste de Philippe circulent depuis la mi-juin, lorsque Macron a déclaré qu'il souhaitait recréer sa présidence. Dans le remaniement ministériel français, le premier ministre démissionne généralement avant la nomination des membres du cabinet, mais peut encore être reconduit dans ses fonctions de premier ministre. Il n'y a pas encore d'indication claire que Philippe sera à nouveau demandé de former un nouveau gouvernement. Le premier ministre australien Scott Morrison a montré jeudi que son gouvernement pourrait suivre les traces de la Grande-Bretagne en offrant des visas aux habitants de Hong Kong après que la Chine a imposé une nouvelle loi sur la sécurité dans la région semi-autonome. Le gouvernement britannique dit qu'il autorise les citoyens de Hong Kong détenteurs d'un passeport BNO ou British National Overseas Status et leurs familles à vivre et travailler au Royaume-Uni pendant 5 ans, puis ils peuvent demander la citoyenneté. Environ 3 millions de résidents de Hong Kong sont titulaires d'un passeport BNO et ont le droit de demander la propriété de ce passeport spécial. Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré au Parlement qu'il avait discuté de la question avec d'autres pays qui ont des liens étroits avec Hong Kong. Selon Morrison, la situation actuelle à Hong Kong est alarmante et le gouvernement australien se prépare à avancer et à fournir un soutien. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a exhorté le responsable à maintenir une vigilance maximale contre la pandémie de coronavirus. Néanmoins, Kim Jong-un a réitéré l'affirmation du gouvernement selon laquelle il n'y avait pas de cas de COVID-19 en Corée du Nord. C'est ce qu'a rapporté récemment par les médias d'État nord-coréen, selon l'agence de presse AP. La Corée du Nord a fermé presque tous les trafics frontaliers, interdit les touristes, intensifié les contrôles aux points d'entrée et mobilisé des dizaines de milliers d'agents de santé pour surveiller la population et isoler ceux qui présentent des symptômes. Les experts disent que le confinement imposé par les pays exacerbe l'économie qui a été frappée par de fortes sanctions dirigées par les États-Unis pour son programme d'armes nucléaires et des missiles. Le gouvernement indonésien a participé à la réunion de l'Association des États de l'Océan Indien, ou abrégé en IORA, pour soulever la question de la protection des membres d'équipage. Telle est la déclaration écrite du ministère indonésien des Affaires étrangères reçue récemment à Jakarta. Cette cohérence a également été démontrée lors de la 10e réunion annuelle du comité des hauts fonctionnaires de l'IORA qui s'est tenue en ligne pendant 3 jours consécutifs du 29 juin au 1er juillet. Le directeur général du ministère indonésien des Affaires étrangères pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique, Desra Belkaya, en tant que président de la délégation indonésienne pour l'IORA, a déclaré que le moment était tout à fait approprié pour tous les pays de réaliser une coopération concrète pour encourager le secteur maritime en tant que moteur de la reprise économique post-épidémique. Pour cette raison, l'Indonésie a préparé un plan de travail orienté vers l'action pour l'IORA qui vise, entre autres, à rétablir le bien-être des pêcheurs, à protéger la béca sur les bateaux de pêche et à revitaliser le tourisme maritime. La directrice générale des petites et moyennes et diverses entreprises, Gati Wibawaningsih, a expliqué qu'elle était active dans la mise en œuvre de diverses formes d'attention concrètes pour maintenir l'existence et la durabilité de l'activité des petites et moyennes entreprises nationales, l'une d'entre elles en augmentant le programme de restructuration des machines et du matériel. Gati, à travers sa déclaration reçue à Jakarta vendredi, a déclaré que le programme de restructuration des machines et équipements était l'un des bons choix pour encourager leur entreprise tout en augmentant leur compétitivité. Ce programme de restructuration est une remise sur l'achat de machines et d'équipements pour les petites et moyennes entreprises qui achètent de nouvelles machines. Le montant de la remise est de 30% pour les machines nationales et de 25% pour les machines importées, avec une valeur de remise d'au moins 5 millions et un maximum de 300 millions de roupies par entreprise. Selon Gati, jusqu'à présent, le programme de restructuration du ministère de l'Industrie peut être le moteur du secteur petite-moyenne entreprise pour rajeunir la machine tout en augmentant sa capacité de production. Taman Wisata Candi, ou abrégé en TWC, l'entreprise qui gère les temples de Borobudur, Prambanan et Ratu Boko, a mis en place des protocoles de santé stricts pour les touristes visitant l'ouverture d'essai de la destination touristique. Le procès d'ouverture débute mercredi. Le directeur de PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan et Ratu Boko, ou Persero, Edi Setijono, dans sa déclaration de jeudi, a déclaré que le protocole de santé pour les touristes visait à prévenir la propagation du COVID-19 et que l'ouverture d'essais opérationnels avait été effectuée après qu'un permis avait été délivré par le groupe de travail pour l'accélération de la manipulation de COVID-19 province spéciale de Yogyakarta. Il a déclaré que les protocoles de santé mis en œuvre comprenaient une distance physique avec un appel à toujours utiliser des masques et se laver les mains pour les visiteurs. Le Conseil de coordination des investissements, ou BKPM, a révélé que des tarifs d'importation plus compétitifs sont une raison pour les investisseurs des États-Unis, PTCDS Asia ou Alpan Lighting, de relocaliser leurs usines de Xiamen, la Chine, en Indonésie. Alpan Lighting, une entreprise engagée dans l'industrie de l'éclairage solaire, est l'une de ces sociétés étrangères qui ont officiellement relocalisé leurs investissements en Indonésie. Le responsable adjoint de la promotion des investissements de BKPM, Iqmal Luqman, a déclaré vendredi dans un communiqué à Jakarta que le fait était une preuve claire que l'Indonésie pouvait rivaliser avec la Chine. Il est optimiste qu'à l'avenir, de nombreux autres investisseurs étrangers relocaliseront leurs investissements en Indonésie. Voilà les journaux d'aujourd'hui.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Badung, Bali. Le gouvernement provincial de Bali, en collaboration avec PT Angkasa Pura Ang, en tant que directeur de l'aéroport international de Bali, I Gusti Ngurah Rai, mercredi le 1er juillet 2020, a effectué le rituel upacara penaduh jagat Bali, mepekelem et mebebangkit, pour demander la sécurité en particulier de la pandémie de COVID-19. Le sous-gouverneur de Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, autant pour Telaga Wajah, exprime l'espoir que le rituel puisse libérer les gens de la pandémie de COVID-19. Pendant ce temps, la directeur régionale de PT Angkasa Pura Ang Persero de l'aéroport international de Bali, I Gusti Ngurah Rai, Heri Aye Sikado, a déclaré que, lié aux efforts visant à prévenir la propagation de la pandémie de COVID-19, il a exhorté toutes les personnes qui voyagent par avion ou tous les utilisateurs de services aéroportuaires à se conformer au protocole de santé. Ensuite, l'info de Mataram, Nusa Tenggara Ouest. 6 touristes étrangers de 3 pays différents sont intéressés à aider à promouvoir le tourisme éducatif développé par le lycée professionnel USMK N5 Mataram, Nusa Tenggara Ouest. Le directeur de l'école, M. Istiqlal à Mataram, jeudi 2 juillet, a déclaré que les 6 touristes étrangers venaient des Pays-Bas, de l'Estonie et de l'Inde. Ils viennent à l'école pour chercher une expérience de batik et apprendre l'art de la céramique sous la direction de Lombok Care Foundation. Ils ont également demandé que l'école fournisse des modules éducatifs pour les branches, des arts martiaux et des cours de danse et de cuisine. La dernière info est venue de Yogyakarta. La diffusion de zonage à Malioboro, Yogyakarta, pour réglementer le quota de visiteurs a commencé à être mis en œuvre depuis le début de cette semaine. Cela faisait partie d'un protocole d'essai pour des visites touristiques dans la principale zone touristique de la ville de Yogyakarta. Ekwanto, chef de l'unité de mise en œuvre technique de Malioboro à Yogyakarta, jeudi a déclaré qu'un quota maximum de visiteurs dans chaque zone avait été fixé. L'objectif est qu'il n'y ait pas de foule dans chaque zone. Les agents obtiendront des informations sur le nombre et le mouvement des visiteurs, car tous les observateurs de Malioboro sont tenus de scanner le code QR disponible dans chaque zone avec un téléphone portable. Si le nombre de visiteurs atteint le quota, il y aura une annonce au téléphone portable de l'officier de la zone. Chers auditeurs, c'était les infos de l'Indonésie.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la fondation du Parti National Indonésien ou PNI le 4 juillet 1927. Le Parti National Indonésien ou PNI a été fondé à Bandung, Java West avec le nom l'Union Nationale Indonésienne ou PNI. PNI a été fondé par des figures nationales et des figures de mouvement indonésien telles que Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, M. Sartono et M. Iskak Cokro Hadisuryo. PNI est considéré dangereux pour les Pays-Bas parce qu'il a répandu les enseignements du mouvement de l'indépendance, de sorte que le gouvernement des Antilles néerlandaises a émis un mandat d'arrêt le 24 décembre 1929. En 2002, PNI a changé son nom d'être PNI Marhaenisme et présidé par Sukmawati Soekarno, la fille de Soekarno. L'autre information est sur la bataille de Kursk dans la Seconde Guerre mondiale entre l'Allemagne et l'Union soviétique. La bataille de Kursk est la plus grande bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale. Cette bataille a eu lieu près de la ville de Kursk, qui est une ligne de défense soviétique. La bataille a duré presque un mois. Les forces allemandes, dirigées par deux généraux, à savoir Erich von Manstein et Walter Model. Nous finissons aujourd'hui avec l'événement l'indépendance des Philippines le 4 juillet 1946. La République des Philippines est une république en Asie du Sud-Est, au nord de l'Indonésie et la Malaisie. Le pays a obtenu le nom les Philippines après être présidé par les autorités espagnoles, le roi Philippe II. Après la guerre hispano-américaine en 1898, les Philippines ont été dirigées par les États-Unis. Les Philippines sont devenues une république en vertu des États-Unis depuis 1935. Les Philippines ont finalement obtenu son indépendance le 4 juillet 1946. Les jours de l'occupation étrangère affectent la culture et la société des Philippines. Serviteurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Tak pernah begini, jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi
memandangmu. Oh, tapi
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, l'industrie manufacturière de l'Indonésie commence à se remettre. L'industrie manufacturière indonésienne a commencé à se remettre en juin 2020. Cela s'est reflété dans Purchasing Managers Index ou PMI publié par IHS Market. En juin 2020, le PMI manufacturière de l'Indonésie était au niveau de 39,1 ou a augmenté 10 points par rapport à mai qui était à 28,6. Dans un communiqué de presse à Jakarta jeudi le 2 juillet, le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré qu'il était optimiste que les performances de l'industrie manufacturière nationale pourraient à nouveau augmenter lorsqu'elle fonctionnait normalement. Selon lui, l'une des raisons du démarrage du secteur industriel national est qu'il existe un certain nombre de politiques gouvernementales qui prennent parti pour les affaires, comme l'octroi d'incitations fiscales. En outre, il est soutenu par de nouvelles règles normales qui contribuent à encourager la consommation intérieure. Selon le ministre de l'Industrie, le nouvel ordre normal a changé le comportement des dépenses des gens, ce qui a également un impact sur l'accélération de la transformation des entreprises numériques, y compris dans le secteur des petites et moyennes industries ou IKM. Il a cité les données de Bank Indonesia qui montraient une augmentation des transactions commerciales en ligne de 18,1% jusqu'à 98,3 millions de transactions en mars 2020. La valeur totale des transactions augmentant de 9,9% à 20,7 billions rupiah. Selon Agus Gumiwang, maintenant est le bon moment pour récupérer la fabrication indonésienne. Parce qu'au cours des trois derniers mois ou depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé l'Indonésie, la fabrication a appris à être plus efficace et efficiente. Par conséquent, sa partie continue d'encourager l'industrie manufacturière à innover davantage afin de produire des produits compétitifs à l'échelle mondiale. Selon lui, cela est conforme au programme prioritaire de la feuille de route Making Indonesia 4.0. Initialement, la mise en œuvre de Making Indonesia 4.0 s'est concentrée sur 5 secteurs, à savoir l'industrie alimentaire et des boissons, les textiles et les vêtements, l'automobile, la chimie et l'électronique. Ces 5 secteurs sont considérés comme représentant l'industrie dans son ensemble. Cependant, le ministère de l'Industrie veut ajouter 2 autres secteurs en tant que pionniers, à savoir l'industrie pharmaceutique et les dispositifs médicaux. Compte tenu de ces secteurs connaissent actuellement une forte demande. Pour cette raison, le ministère de l'Industrie demande une préparation de l'industrie soutenue par la disponibilité d'une main-d'œuvre compétente en plus de l'application de la technologie moderne. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Thank you.
Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Cette fois, nous allons présenter Nasi Serpang ou le riz de serpent, l'une des spécialités de Bangkalan, Madura. Le riz de serpent est l'un des aliments typiques de Bangkalan, Madura, précisément dans le village de Sabian, presque similaire avec le riz mélangé qui est couramment rencontré en Indonésie. Serpent est en fait le nom d'un hameau du village de Sabian dans le district Arosbaya, environ 10 km du gouvernement central de Bangkalan. Les vendeurs sont faciles à trouver sur le bord de la rue principale de la ville de Bangkalan. Il y a ceux qui disent qu'il s'appelle le riz de serpent parce qu'il est vendu au bord de la route du hameau de serpent. Le riz de serpent est un plat riche en accompagnement. Pour faire du riz de serpent, il doit utiliser du riz moulu avec des plats d'accompagnement tels que les nouilles de fer, le pepes de poisson, cela veut dire cuisson à la vapeur dans une feuille de banane, les œufs salés, les palourdes épicées, le sambal terasi, c'est un condiment d'origine indonésienne et malaisienne à base de piment et la pâte de crevette. Et ajouter la sauce au lait de coco contenant des morceaux de tofu et craquelin. On utilise des feuilles de bananier comme plaque. Le riz serpent n'est vendu que 5h30 jusqu'à 7h30 et il n'y en a généralement que 30 paquets par jour. Le prix du riz de serpent est environ 12 000 jusqu'à 18 000 rupiah par portion. Il est facile à trouver, mais vous devez être prêt à se lever tôt parce que sinon cet aliment est fini. Si vous êtes à Madura, l'île la plus proche de Surabaya, n'oubliez pas d'aller à Bangkalan afin de goûter le riz de serpent, le bon aliment traditionnel. Chers amis, c'était un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Saksi bisu kita.
La rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre Allo Sultra 2018. Sulawesi du Sud-Est ou Sultra était à l'origine le nom de l'une des résidences en province de Sulawesi du Sud avec Baobao comme résidence capitale de la province de Sulawesi du Sud-Est. Ensuite, Sulawesi du Sud-Est a été fixé en tant que région autonome sur la base du règlement numéro 2/1964 avec Kendari comme capitale provinciale. La réalisation de la formation du niveau régional 1 de Sulawesi du Sud-Est a été réalisée le 27 avril 1964 pour animer le 54e anniversaire du Sud-Est de Sulawesi. Le gouvernement provincial du Sud-Est de Sulawesi prépare cette activité principale de son anniversaire qui est emballée dans l'événement Allo Sultra à Tugu Religi Alun-Alun Kendari du 23 au 27 avril 2018. Allo Sultra a d'abord eu lieu en 2008. Ensuite, il a été nommé à ce moment l'éclat du Sud-Est de Sulawesi. En 2009, le nom officiel a été changé en Allo Sultra. Le mot Halo est tiré de Haluoleo, l'un des rois qui a gouverné le royaume de Konawe au XVIIe siècle, tandis que Sultra est une abréviation de la province de Sulawesi du Sud-Est. L'événement de Halo Sultra 2008 a été défini comme « Sang événement de Wonderful Indonesia » par le ministère du Tourisme récemment. Ainsi, Halo Sultra devient la principale activité touristique d'Indonésie en piquant d'épée dans le monde. Le ministère de Tourisme fait la promotion de Halo Sultra dans 117 pays du monde, en particulier dans tous les pays de l'Asie, au Japon, en Chine, en Australie et au Moyen-Orient, et dans certains pays d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. En ciblant 100 000 touristes, le gouvernement provincial du Sud-Est de Sulawesi présente cette activité. Plusieurs groupes d'événements sont préparés tels que le carnaval, le tissage de Sultra, l'art culturel et le festival culinaire. Il y a aussi le tournoi Putra-Putri de tourisme, les foires de développement, les forums d'affaires et le concours international de photographie. Les différences entre Halo Sultra 2018 et l'activité similaire de l'année précédente sont qu'il y a des événements à tenir, à savoir la séance coordinatrice technique des forums nationaux des hommes d'affaires dans le domaine du tourisme et le concours international de photos Ang saking konsen le konkurs internasional de fotografi ili aktualimang omuang du spek kisong asuke le partisipasyon. Serita, c'est elle Indonesia en collaboration ce soir avec le titre Hello Sultra 2018. Nous nous rencontrons demain avec le sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. Chers amis, comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter magazine musical. Et cette fois, nous allons vous présenter une chanson de Keroncong chanté par Wiwi Sumbogo, intitulé Ma réflexion. Cette chanson est créée par Budiman BJ. Elle décrit une personne qui réfléchit à sa vie, de la vie qui n'est pas toujours la même. Il y a des goûts et des souffrances. Tout doit être affronté avec courage. À travers ce poème de chanson, nous sommes invités à toujours demander à l'aide de toute puissance face à des problèmes et remercier quand on lui donne du plaisir ou du bonheur. Bon, chers amis, écoutons maintenant une chanson intitulée « Ma réflexion » chantée par Bibi Sumbongo. Merci à tous et au revoir.
Dalam angan hati yang sedang renungkan diri, mengarungi samudra luas dalam penghidupan ini. Rasakan segala derita, namun hanya dengan ketabahanku hadapi. Tiada suasana bahagia yang kini sedang aku rasakan, tiada lain hanyalah satu atas pemberiannya.
Voice of Indonesia.
Thank you. bangsaku.
Voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.